ce soir des puits d'Itsrak. Des puits qu'Itsrak a creusés dans la paracha de cette semaine. Ça se présente de la manière suivante. Au temps d'Abraham, Abraham avait creusé des puits dans le pays des Plishtim, plus exactement Beersheba. Et à la mort d'Abraham, les Plishtim, les Philistins, ont bouché ces puits. Et dans cette paracha, on va nous expliquer, on va voir ensemble qu'Itsrak Avinu a recreusé les puits. Il en a creusé d'autres, mais il a recreusé ceux que son père avait creusés. Alors le texte dit la chose suivante, je vais expliquer un peu plus après. Donc le texte dit Kol ha-be'erot, tous les puits que les serviteurs d'Abraham, au temps d'Abraham, avaient creusés, tous ces puits, les Plishtim les ont fermés et ils les ont remplis de poussière, littéralement. Dans l'ordre des versets, il faut faire un petit peu de changement. Les serviteurs d'Itsrak, l'initiative d'Itsrak, ont recreusé les puits. Et ils ont d'abord creusé Banachal. Ils ont creusé et ils y ont trouvé de l'eau, évidemment. Et Abraham, et Itsrak va creuser ses puits et il va les nommer, dit le Passouk, il va les nommer des mêmes noms que ceux que son père avait choisi pour les nommer. Alors, les serviteurs d'Itsrak creusent et ils trouvent Be'er Ma'im Chaim, trouvent un puits, donc d'eau vive. Et les bergers de Guérar, donc les Plishtim, se disputent avec les bergers d'Itsrak en disant « Cette eau est à nous ». Alors, qu'est-ce que fait Itsrak ? Eh bien, il nomme ce puits Esek, il nomme ce puits Affaire. Ils font des affaires. C'est une affaire qui est là en chemin. On va voir ce que ça peut vouloir dire. Parce que justement, ils se sont affairés littéralement avec lui. C'est-à-dire les Plishtim l'ont ennuyé en quelque sorte. Alors, Itsrak s'est éloigné de ce fleuve, de ce Nahal, et on a creusé un autre puits. Sur ce puits-là, les Plishtim ont également ennuyé Itsrak, et Itsrak a appelé ce puits-là Sitna, ça veut dire accusation, opposition. Alors, Itsrak s'est plus radicalement éloigné. Il a creusé un troisième puits. Et au sujet de ce puits-là, ils ne lui ont plus fait de problème. Et il a nommé ce puits Rehovot, qui ata yarchiv. Rehovot, ça fait référence à disons, à toute une démarche, en quelque sorte, d'agrandissement. Voilà, Hachem a fait en sorte que on est à l'aise, on est au large, au farine ou baharet, si on va pouvoir se multiplier sur cette terre. Alors, par la suite, les serviteurs d'Yitzhak vont de nouveau chercher et trouver de l'eau. Et puis ils vont venir effectivement dire à Yitzhak que voilà, on a trouvé de l'eau. Mais entre-temps, Yitzhak reçoit la visite d'Avimelech qui vient. Il vient avec son général et commence toute une discussion avec Yitzhak. Il lui fait des reproches. Alors c'est Yitzhak qui les renvoie littéralement. Il dit, pourquoi est-ce que vous venez me voir? Vous me haïssez? Vous m'avez chassé? Alors je vais essayer de mettre un tout petit peu d'ordre dans ce que je vous ai dit ici. Yitzhak creuse, ou plus exactement recreuse, les puits que son père a creusés. Son père, Abraham, lui, il a creusé des puits. Et la démarche générale d'Abraham, c'est donc une démarche de chesed, c'est la caractéristique d'Abraham, de générosité. Et donc les puits qu'Abraham a creusés, c'est des puits qu'il a mis à disposition des gens. Vous pouvez venir vous abreuver. Yitzhak, lorsqu'il va creuser ces puits, il va les creuser à l'endroit où son père a creusé, donc il va reprendre le travail de son père, mais il va les creuser évidemment avec ce qu'il est lui, avec ce qui le caractérise, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle la gvoura, avec ce qu'on appelle la rigueur. Et donc Yitzhak, lui, les puits sont là, vous voulez boire, bien, il faudra payer, c'est autre chose. C'est une autre démarche. C'est toujours généreux, parce qu'il a fait le travail pour eux, mais ça n'est plus complètement gratuit. Il y a une démarche d'Yitzhak qui est faite en fonction de ce qu'il est, lui, Yitzhak. Il creuse, mais les Chachamim vont nous expliquer que l'eau ne va pas couler à flot. Ça ne coulera abondamment qu'avec Yaakov. Yaakov va revenir et lui aussi va avoir un problème avec les puits, enfin un problème beaucoup plus léger, et chez lui, chez Yaakov, ça va effectivement couler à flot. Quand il creuse son premier puits, ils viennent et ils disent, l'eau de ce puits provient du fleuve, donc elle est à nous. Elle n'est pas à toi. Alors, Yitzhak Avinu, c'est la gvoura, c'est la puissance, la force. On pourrait s'imaginer que Yitzhak réponde violemment, éventuellement fasse la guerre. Pas du tout, il se retire. Il se retire, il s'éloigne. Là où il est, il creuse. Évidemment, ils n'ont plus cet argument, l'eau du puits vient du fleuve, donc elle est à nous. Mais néanmoins, sans argument valable, ils s'opposent à lui et ils disent, nous voulions justement creuser à cet endroit-là. Il sera se redéplace. Il va à un endroit où les autres n'ont sûrement pas envisagé de creuser. Le troisième. Puis ça passe. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas, il n'y a pas d'opposition. C'est accepté. Une remarque en passant, c'est que les deux premiers puits, ce sont les esclaves, les serviteurs de Yitzhak qui les ont creusés. Le troisième, celui qui ne débouche sur aucune contestation, c'est le passouk dit que c'est lui qui l'a creusé. Bon, c'est au pluriel sur les deux premiers puits, c'est au singulier sur le troisième. Juste en passant. Le Ramban dit que ces trois puits-là font référence aux trois Batei Mikdash, aux trois temples. Le premier, celui qui est appelé Esek, fait référence au premier Bet Hamikdash. C'est effectivement un Bet Hamikdash où, sauf les 40 ans de Shlomo, le clan Israël a été divisé, Eretz Israël a été divisé. Donc, il y a des affaires en cours en quelque sorte. Le deuxième Bet Hamikdash, lui, qui est appelé Sitna, comme je vous ai dit, ses accusations, oppositions, sont des ennemis extérieurs, malgré l'unité du peuple. C'est des accusations gratuites. C'est les fils d'Aman qui écrivent une Sitna, justement, pour dénoncer, soi-disant, les juifs à l'empereur, en disant qu'ils sont en rébellion, qu'en vérité ils construisent des choses pour qui sont contre la Perse, etc., contre les Mèdes. Effectivement, deuxième Bet Hamikdash, on a affaire avec les Mèdes, avec les Perses, avec les Grecs, avec les Romains. Accusations tous azimuts, même si ces accusations n'ont pas de fondement. Le troisième Bet Hamikdash, le Rehovot, c'est le Bet Hamikdash de l'expansion, c'est le flot de la Kdusha. Et tout ça, ce sera le troisième Bet Hamikdash qui sera construit Bimera Biamin. Qu'est-ce que c'est ce puits-là? Qu'est-ce que c'est que ces puits? Un puits, c'est quelque chose qu'on creuse pour accéder à l'eau, évidemment. Il y a, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a fait une première séparation avec un rakia, avec une étendue. Il a créé un rakia qui sépare le monde et les eaux supérieures. Et puis il y a une seconde séparation qui est une forme de croûte au-dessus des eaux d'en bas, des roka Haaretz al Hamaï. C'est-à-dire qu'il y a une étendue de la terre qui est étendue sur la surface de l'eau. Par conséquent, la présence divine qui était là au moment de la création, cette présence divine est cachée. Il y a des étendues qui cachent la présence divine. La tâche de l'homme, c'est deux choses. Premièrement, à la fin de l'histoire, il y aura révélation totale de cette présence divine, ce qu'on appelle la Shrina, dans le monde. Mais la tâche de l'homme, en attendant, c'est de révéler le maximum de cette présence divine dans le monde. Et pour cela, il a la Torah, les Maasim Tovim, pour révéler cette présence. Si les eaux étaient totalement séparées du monde, séparé des hommes, nous ne pourrions pas du tout révéler cette présence divine, parce qu'on n'aurait absolument aucun accès dans ce monde. Donc, doit donc exister un lieu qui est accessible, un lieu où cette présence divine est là et ce lieu est accessible. Un lieu qui n'est donc pas affecté par l'existence de ces rakiyas, de ces étendues séparatrices. Ce lieu, c'est ce qu'on appelle les chittim, c'est ce qu'on appelle en fait des formes d'abîme, c'est une faille, littéralement, qui traverse justement la croûte terrestre qui va vers ce qu'on appelle le Tehom. Tehom, c'est les abîmes. Chazal, dans la Gemara, dans le Shabbat, Chazal disent que le mot Bereshit, on peut le lire comme la juxtaposition de Bara Shit. Il a créé Shit, il a créé justement ses Shitim, il a créé ses failles. Donc ça veut dire que le premier acte de la création, c'est de préserver le lien entre la présence divine et le monde. Et effectivement, sur le misbéach extérieur, sur l'autel extérieur, il y avait deux trous. Un trou qui servait à l'évacuation du vin, parce qu'il y avait des libations de vin, c'est-à-dire on versait du vin sur le misbéach. Il fallait que ce vin puisse s'écouler. Donc il y avait une ouverture qui descendait justement dans ces chétim. Et il y avait un second trou qui était là pour les libations d'eau, ces fameuses libations d'eau qui n'avaient lieu qu'à Sukkot, qui donnaient lieu justement à cette fameuse Simchat Bet HaShoeva dont on a déjà parlé, de ce summum de la Simcha, de la joie. Et donc ça descend jusque au Terom, jusqu'au tout en bas, et le Bet HaMikdash est juste au-dessus de ces chitim. Ça veut dire le Bet HaMikdash, c'est ce qui donne accès, enfin, étant au-dessus des chitim, c'est ce lieu qui donne accès justement à cette présence divine, à ce Ruach Elohim qui est Merachef et Al-Pnei Hamayim, c'est à cette présence divine en fait. Le lien entre Yitzhak Avinu, entre Yitzhak et les puits, c'est que les puits sont nécessaires a priori pour ceux qui ont besoin d'eau, essentiellement pour les gens qui en ont besoin pour l'irrigation, pour la culture, etc. Yitzhak Avinu, comme vous savez probablement, il voit le Bet HaMikdash comme un sadé, comme un champ, comme un lieu de travail justement, un lieu où on a justement besoin d'irrigation et d'eau. Et c'est un lieu de travail. Le travail en question, c'est quelque chose de bien précis en fait. Comme vous savez, Yitzhak Avinu, c'est celui qui a instauré la tfila, la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, la prière juste avant le soir. Et la caractéristique de la prière de la tfila de Yitzhak Avinu, Rashi nous dit ici au tout début de la paracha, quand on nous rapporte que Yitzhak et Rivka priaient, puisque Rivka était stérile, et ils priaient pour avoir un enfant. Et on nous parle de la prière d'Yitzhak, et on utilise, la Torah utilise le verbe, un verbe étrange. Le pasuk dit Vayetar Yitzhak l'Hashem lenochach ishto, Yakarai. A priori, ça veut dire Yitzhak Avinu a prié Hachem, mais l'utilisation de ce verbe-là est un peu surprenante. Et effectivement, Rashi explique qu'est-ce que c'est que ce Lachon. Rashi dit Omer Ani, que le Lachon de Atar, qui est la racine de ce verbe, donc Ain Tav Reish, il dit, c'est en fait, bien sûr, une recherche très, très, très puissante, très forte. Il demande très fortement, mais on va expliquer que la prière, en général, c'est comparé, justement, à un travail qui consiste à transformer la Midat Adin en Midat Arachamim, transformer la rigueur en tendresse. C'est le propre de Yitzhak par sa tfila, de faire ce travail, lui qui est la rigueur, en fait, il va par sa tfila, par sa prière, transformer la rigueur en tendresse, c'est-à-dire transformer la rigueur en quelque chose qui, en fait, n'est plus la rigueur, évidemment, puisqu'il s'agit de quelque chose, d'une démarche, si vous voulez, qui ne tient pas compte, ne tient pas rigueur, ne tient pas compte des choses, mais tient compte de la conduite, etc., mais tient compte de la relation existante, d'une relation d'amour, d'une relation très étroite entre Hachem et ce qui va être le clan Israël. Alors, ce qui se passe ici, c'est la chose suivante. Le Midrash demande combien de puits est-ce que Yitzhak a creusé. C'est une démarche un peu surprenante dans la mesure où on n'a qu'à les compter, on verra bien, on sait combien il y en a, mais les réponses sont surprenantes. Le Midrash rapporte la réponse de Rabbi Yehuda, il dit il y en avait 4, et les Rabbanan disent il y en avait 5. Et le Midrash dit, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda dit qu'il y en avait 4? Eh bien, c'est pas pourquoi il y en avait 4, mais pourquoi, à quelle fin il y en avait-il 4? Quel était l'intérêt qu'il y en ait 4? C'est en fait pour mettre en place 4 groupes de dgalim, de drapeaux, que les Bnei Israël ont eu dans le Midbar. Vous savez que les Bnei Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont vu que les anges qui accompagnaient le don de la Torah, ils ont vu que ces anges étaient organisés autour de ce qui s'appelle les drapeaux, les galim. C'est-à-dire qu'il y avait une référence spécifique pour chaque groupe d'anges. Et les Bnei Israël ont dit, nous aussi on veut aussi des drapeaux comme ça. Ils vont avoir un drapeau, un emblème de chaque tribu. Vous savez bien, c'est connu. Chaque tribu avait un emblème, mais les tribus autour du Beit HaMikdash, autour du Mishkan en l'occurrence, étaient organisées en 4 groupes, selon les 4 directions cardinales, donc 4 fois 3. Donc ces 4 groupes-là de Galim, c'est à cause de ça, dit le Midrash, qu'il y avait 4 puits. Et les rabbins disent non, c'est à cause des Chamisha Chumshei Torah, ça correspond aux 5 livres de la Torah. Les 5 livres de la Torah, le puits qui s'appelle Esek correspond à Bereshit, parce qu'Hachem a créé et il s'est occupé, ou Asak, il s'est occupé du monde. Sitna, c'est Shemot parce que c'était la vie amère que les Égyptiens ont fait au Bnei Israël. Celui qui s'appelle Be'er Ma'im Chaim correspond à Vaikra parce que c'est l'eau vive, c'est l'abondance, abondance de Halachot dans le Sefer Vaikra. Celui qui s'appelle Shiva correspond à Bamidbar, je ne vais pas entrer maintenant dans le détail de pourquoi. Et celui qui s'appelle Rechovot correspond au Mishneh Torah parce que qui yachiv, enfin, Hashem va, comme on dit dans le Mishneh Torah, de l'un des dinim, lorsque Hachem justement te permettra une expansion, lorsque ton territoire deviendra plus grand. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, quand on s'occupe du nombre de puits, on voit très bien que ni l'un, enfin, ne s'occupe pas vraiment du nombre de puits qu'il y avait, qu'on pourrait compter différemment, etc. D'autres vont dire qu'il y en avait 7. Mais ce qu'on voit ici, c'est que les actes des Avot visent et engagent toutes les générations. Au point que même ce qui apparaît n'être que souci ou nécessité quotidienne, il faut avoir de l'eau, évidemment. est éternel. Et chaque détail des actes des Avot est une indication de vie pour tous les descendants. Donc les puits qui sont creusés pour trouver de l'eau ont en fait à voir avec des choses extrêmement élevées. Ils ont à voir avec les Dgalim. Les Dgalim, c'est cette comparaison qui se fait entre le Klal Israël et les anges au moment de Matan Torah. C'est aussi les Chamisha Khumshei Torah, c'est-à-dire effectivement c'est la structure même de la Torah. Donc il y a préparation de la réception de la Torah, puis ensuite cette structure de la Torah. Donc ces choses-là, ces puits, ont à voir avec ces choses qui sont extrêmement élevées, dont on pourrait penser que ça n'a rien à voir avec les puits, c'est purement technique. Évidemment, il n'en est rien. Chazal disent il faut remarquer que dans la Torah, il y a 48 fois le mot Be'er au singulier ou au pluriel. Or, ce 48, dit le Midrash, il faut le mettre en rapport avec ce que Pirkei Avot nous enseigne, des 48 midot, des 48 qualités nécessaires pour l'acquisition de la Torah. En fait, ce chiffre de 48 dans la Gemara, dans Sota, on nous dit qu'il y a 48 britot, 48 alliances qui ont été scellées, qui ont été faites sur chaque mitzvah. Ça correspond aussi aux 48 prophètes. Les Chazal disent que le jour de la naissance d'Yitzhak Avinu, Akadosh Baruch Hu a ajouté une lumière qui était 48 fois plus puissante que celle qui existait jusqu'alors. Juste pour ceux que ça intéresse, Rabbeinu Bachaye dans Shemot, il explique pourquoi, qu'est-ce que c'est que ces 48. Bon, c'est vraiment une toute petite parenthèse, je ne vais pas m'étendre. Il explique que les 12 sirufim du Shema Vaya, ça donne 48 lettres. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que voulaient les Plishtim avec ces histoires de puits? Pourquoi ils ont ennuyé comme ça Yitzhak Avinu? En quoi ça les dérange? Bon, effectivement, est-ce que c'était vraiment seulement une question d'argent, une question de... Et puis, on voit très bien qu'ils l'ennuient même pour... Lorsqu'ils n'ont plus d'arguments, ils l'ennuient. Alors, cette dispute qu'il y a entre Yitzhak Avinu et Avimelech, on peut l'entendre comme ça. Avraham Avinu, comme je vous ai dit, il a creusé des puits qui étaient, selon la Mida, selon la caractéristique d'Avraham Avinu, c'est des puits qui étaient recettes, c'est-à-dire c'était tout entier générosité. C'est des puits pour que tout le monde vienne boire. Évidemment, quand les gens étaient venus, sont venus pour boire, et qu'ils ont voulu remercier Avraham Avinu, alors vous connaissez ce qu'on a déjà expliqué dans les parchiotes qui précèdent, que à ce moment-là, Avraham Avinu a dit que c'est pas moi qu'il faut remercier, il faut remercier Hachem. Il a fait connaître le nom d'Hachem, évidemment, grâce à cela. Mais, bon, je sais pas comment les gens le prenaient. Est-ce qu'ils auraient préféré payer plutôt que de devoir reconnaître Hachem dans cette chose-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était là la démarche d'Abraham. Yitzhak, lui, il a une autre démarche. Et alors, ce qui se passe ici, c'est que on a bouché, ils ont bouché les puits d'Abraham Avinu. Et à ce moment-là, Avimelech, le roi des Plishtim, donc l'empereur des Plishtim, il a vu que le flux, donc l'influence du chesed d'Avraham ne pouvait plus marcher puisque les puits étaient bouchés, et néanmoins il constate cette richesse d'Yitzhak qui explose, ce fameux il trouve Me'acharim. Yitzhak, il a une richesse absolument insolente pour les Plishtim, pour les Philistins. Il vient avec trois fois rien et tout marche. Je veux dire, il y a des facteurs 100 partout. Donc, Et eux, ils ont... Ça ne marche pas bien chez eux. Mais maintenant, ils sont obligés de dire que cette richesse de Yitzhak, qui continue, qui se développe, elle ne vient pas du Chesed, puisqu'ils ont bouché les trous. Ils ont bouché les puits, pardon. Ça veut donc dire... Il y avait... Maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on va... Comment on va expliquer cette richesse d'Yitzhak? Alors, on pourrait dire que Yitzhak a un mérite propre. C'est le mérite d'Yitzhak qui fait qu'il est devenu riche. Bon, on connaît bien les Plishtim, ils ne vont pas se rendre si rapidement. La théorie, c'est la suivante. La théorie des Plishtim, c'est la suivante. Les Plishtim disent, en vérité, Yitzhak, cette richesse, il ne la mérite pas. Mais c'est nous qui ne nous conduisons pas bien. Et Hachem veut nous punir, et pour nous punir, il nous montre, il nous met sous le nez en quelque sorte, cette richesse insolente d'Yitzhak, pour nous faire mal en quelque sorte. C'est-à-dire, il manifeste soi-disant un amour pour Yitzhak, qui n'est en fait qu'une punition pour Avimelech et les Plishtim. Ils lui disent, « Atzamta » Mimenu, tu es devenu extrêmement puissant, et c'est seulement à cause de nous, pas par nous, mais à cause de nous, pour nous punir. Ta puissance, elle n'est pas pour toi, elle est, tu n'es que, en quelque sorte, l'aiguillon qui est dans nos yeux, en quelque sorte, pour nous punir. Alors, il pense, on va chasser Yitzhak. Si on le chasse, sa richesse va tomber, et peut-être même nous, puisque Yitzhak ici sert quand même de modèle, éventuellement on ne fait peut-être pas complètement le poids par rapport à lui. En tout cas, s'il n'est plus là, on peut même peut-être imaginer que nous, Plishtim, Abimelech, on peut retrouver la richesse. Alors il le chasse. Remarquez que Abimelech, il change son discours. Il change son discours lorsque il parlait à Avraham Avinu. Lorsqu'il lui dit, il lui dit Elohim Imcha. Ça, c'est ce qu'il dit à Avraham Avinu. Et à Yitzhak, il ne lui dit pas la même chose. À Yitzhak, il dit, nous avons vu qui haya Hashem Imcha. Qui haya Hachem Imcha. C'est un peu étonnant parce que Elohim, c'est le nom divin qui correspond à la rigueur. Donc on se serait attendu qu'il utilise ce nom divin-là pour Yitzhak. Et Hachem, le tétragramme, c'est le nom divin qui correspond au Chesed. On se serait attendu qu'il utilise ce nom-là pour Avraham. Alors pourquoi est-ce qu'il a croisé, pourquoi est-ce qu'Avimelech a croisé en quelque sorte les noms divins ici? Pourquoi il a changé en fait? On va dire la chose suivante. Avraham Avinu éveille le chesed, la générosité sur le monde, au point que même la midat adin, même la rigueur, est obligée de se plier au chesed. Elohim imcha. Elohim, la rigueur, est avec toi, chesed. Elle est secondaire. Elle est obligée de se plier au chesed. Ta grandeur, en d'autres termes, vient également du din, mais pas seulement du chesed. Il pensait, Avimelech et les Plishtim pensaient, comme je vous ai dit, qu'Yitzhak ne méritait pas la richesse, d'après le din, mais que c'était le rachamim d'Hachem qui le protégeait pour les punir, eux. Hachem, imcha. Évidemment, c'était faux. Yitzhak Avinu vivait selon le din. C'est à ce titre-là qu'il a reçu la richesse. La richesse a à voir avec le din. Le shulchan, la table sur laquelle étaient posés les chemapanim dans le Beth Amikdash, la table en question, le shulchan, était au tzafon, il était au nord. C'est-à-dire en fait, du côté du Dîn. Parce que la richesse a à voir avec le Dîn, c'est marqué que celui qui veut prier pour la richesse, il faut qu'il aille du côté du Dîn, c'est-à-dire du côté du Tsafon, du côté du Nord. Et on dit, Hazal disent, Akadosh Baruch Hu, la Gemara dans Psachim dit, Akadosh Baruch Hu, Mechalek Mezonot, Lechol Bria, ou Lechol Bria. Akadosh Baruch Hu partage, Mechalek. Mechalek, ça veut dire ici que le flux vient par morceaux, par Chalakim, Tzimtzum, si vous voulez, avec la Gvura, justement. De façon très partagée, très rigoureuse, le Harizal dit que tous les mezonotes viennent mitzal adin. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement après le creusement des puits, il les nomme et il leur donne des noms que son père a donnés. Ça veut dire les mezonotes viennent du chesed qui est dévoilé par la Gvura. La Gvura, la puissance d'Yitzhak, dévoile du chesed, elle dévoile cette générosité. Donc quand ils ont chassé Yitzhak, la Hashpa'a, le flux, s'est arrêté. Dans le Targum Yonatan, il dit que lorsque Yitzhak a quitté Gerar, les puits ont cessé d'être alimentés et les arbres ont cessé de produire des fruits. Ils ont compris. Avimelech va trouver Yitzhak. Ils disent, on reconnaît. Le flux venait par toi comme il venait par le chesed de ton père. Mais Yitzhak et Makpid, Yitzhak les reçoit mal. Il leur dit, pourquoi est-ce que vous venez me voir? Vous me haïssez pourtant, vous m'avez chassé. Alors, ils sont obligés de dire, Ata, Ata, Baruch Hashem, c'est-à-dire toi-même maintenant, tu es source de bénédiction. Et ta Gvura, maintenant, la Gvura, c'est ta façon de vivre les choses, est le passage obligé maintenant pour le dévoilement du chesed dans le monde. Pendant Abraham, le chesed se dévoilait directement sous forme de chesed. Maintenant, le chesed, pour se dévoiler, il doit en passer par la Gvura, il doit en passer par la rigueur, il doit en passer par des limites. C'est du chesed, toujours du chesed, mais il passe par des limites. On comprend pourquoi la Torah a interrompu le récit qui concerne les puits par l'épisode de l'avenue d'Avimelech qui vient discuter avec Yitzhak. Le pasouk dit que les serviteurs d'Yitzhak Avinu ont creusé les puits, puis après la Torah s'interrompt. Elle dit, alors il est venu à Avimelech avec Fichon Tsar Tzvao, avec son général, il commençait à discuter avec Yitzhak Avinu, et puis ensuite ils veulent une alliance, etc. avec lui. Et puis après, lorsque Avimelech s'en va, Pasuk dit, Vayavo le Yitzhak. Ils sont venus, ses serviteurs sont venus chez Yitzhak, ils lui ont dit Matsanoumaï, on a trouvé de l'eau. Mais ce puits, il l'avait creusé depuis longtemps. Avant l'épisode de la venue de la négociation d'Avimelech avec Yitzhak. La Torah veut nous montrer, comme je vous l'ai dit, que Avimelech est obligé, à son corps défendant, il est obligé en quelque sorte de reconnaître que Yitzhak est la source du flux. Et que la mida Yitzhak est Yébeher en réalité, que sa mida c'est une mida de vie et de shalom pour l'éternité. Ça, c'était ce qui leur était évidemment le plus difficile à reconnaître. Les puits que les avot creusent sont donc en fait le chemin spécifique. Leur chemin spécifique à chaque fois. Il s'agit d'aller au plus profond, d'obtenir la manifestation de la présence divine dans le monde, Abraham Avinu par le biais du chesed, de sa générosité, et Yitzhak Avinu par le biais de la Gvoura. Mais Abraham Avinu, qui était le premier à faire aimer Hachem dans le monde, le nom d'Hachem dans le monde, le faire reconnaître et aimer, il creuse ce puits, donc c'est ça qu'on veut dire. On veut dire, il, par ce biais-là, il fait apparaître dans le monde la présence divine. Et c'est pour ça que, après qu'Abraham ait fait des remontrances, justement, à Avimelech au sujet du puits, immédiatement après, le pasuk dit Vaïta Eshel, il est un Sheva, il a planté un Eshel, disons, il a ouvert une auberge. C'est-à-dire, il a ouvert justement un lieu où il va pouvoir pratiquer le chesed. Il va recevoir des gens, il va leur donner à manger, etc. Comme ce qu'on connaît. Puis ensuite, quand ils vont remercier, on leur dira « Reconnaissez Hachem ». L'essence de ce premier puits, c'est le chesed. C'est la mida d'Abraham Avinu. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, il plante ce échelle. Pourquoi Abraham Avinu, quand il nomme le puits, il l'appelle Be'er Sheva, et Yitzhak, ce même puits, il l'appelle Shiva? Alors le Zohar dit que Yitzhak ajoute un Hei, Sheva, ajoute le Hei, Shiva, et il le fait pour indiquer, comme partout, le Din. Il faut penser ici, c'est pas un Sheva et Shiva au sens de sept, qui serait masculin ou féminin ou masculin. C'est une Shvoa, dit Rashi. Ça fait référence au serment. C'est pas, ça veut dire ici qu'effectivement, ce serment maintenant, il se fait selon le Din et pas selon le Chesed. Les Plishtim, en bouchant les puits d'Abraham, ils sont revenus en quelque sorte à la Avodah Zarah. Ils sont revenus à l'idolâtrie. Eux qui avaient connu une forme d'émouna, en quelque sorte, ils sont retournés au monde d'Abraham, en quelque sorte, monde du Tohu Vavohu. Ils sont retournés en arrière jusqu'à ce que vienne Yitzhak, qui ramène le monde à son tikkun, à sa réparation, en quelque sorte. Le Gaon explique que, je vous ai dit Bereshit, on peut lire Barachit. Le Gaon dit, effectivement Barachit, mais il dit les lettres de Bara, Bet Resh, Aleph, c'est les lettres de Be'er, Bet Aleph Resh. Et lui, il lit Be'er Shit. C'est-à-dire, c'est à la fois, on peut dire, c'est le Be'er qui en quelque sorte débouche sur les Chittim, mais c'est aussi Be'er Shit, ça correspond aux six Shit, aux six puits, trois du côté droit, trois du côté gauche, c'est-à-dire les trois puits du côté droit, avez-nous si vous préférez, c'est les puits, pour le Gan il le dit en ces termes. Le puits qui concerne à ce qui est kasher, ce qui est tahor, ce qui est moutard, ce qui est adéquat, ce qui est pur, et ce qui est permis. Et les trois puits de gauche correspondent à ce qui est pasoul, ce qui est inadéquat, ce qui est tamé, ce qui est impur, et ce qui est assour, ce qui est interdit. Et il dit, c'est le etz adat tovara. C'est ça, cette construction. Et le septième puits, dit-il, ça c'est à la Halma Shemi Sinai, sur lequel il n'y a pas de machloket. Il n'y a jamais de discussion sur une démarche de déduction en quelque sorte dans la Gemara, sur laquelle il n'y a pas de machloket. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, sur le pasouk de Shir HaShirim, qui dit Mayan Ganim, Be'er Maim Chaim, Nozlim Min Lebanon, le pasouk dit une source, des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Lebanon. Alors Chazal disent que la source qui alimente le puits, une source qui est au fait que le puits sans arrêt, ce puits-là est un puits qui donne en permanence, c'est évidemment Abraham Avinu. Le puits lui-même, c'est Yitzhak qui a arrangé, complété, réparé le puits. Et le flux complet, comme je vous ai dit, ça c'est Yaakov. Quand Yaakov va venir vers le puits où il rencontre Rachel, il va enlever la pierre, à ce moment-là il y aura un flux complet. À ce moment-là, on est, il n'y a pas de limite, l'eau coule abondamment, tout le monde peut venir, tous les bergers, etc., tous peuvent venir se fournir en eau auprès de ce puits. Yitzhak Avinu, il est, de ce point de vue-là, il est la Torah chez Baal Peh. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'opposition. Or, on ne peut pas accéder à la Torah chez Baal Peh sans anava, sans humilité, sans modestie. La Gemara dans Sota dit que Ein divrei Torah mitkaimin ela bemi shesam atzmo kemi she'eno. C'est-à-dire, les paroles de la Torah ne durent, ne tiennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour des paroles de Torah qu'elles vont tenir? Évidemment, elles vont tenir. Mais ce qui tient, dit la Gemara dans Shabbat, c'est comment c'est, vous savez bien, c'est Kushta Kae, c'est le Emet. C'est la vérité. Tenir, ça veut dire que c'est vrai. Le Emet, lui, il tient. Il est stable, complètement stable. Donc, les Divrei Torah sont Emet. On accède aux divrei, à de véritables Divrei Torah que si on s'efface totalement. Yitzhak Avinu, justement, était attaché justement à la Hanava. Pour lui, la Torah était effectivement un élixir de vie. Et Chazal disent dans la Gemara, dans Avodah Zarah, Chazal disent sur le premier chapitre de Tehilim, sur Bemoshav Letzim Lo Yashav, il n'a pas été assis parmi des plaisantins. Chazal disent Bemoshav Plishtim Lo Yashav. Et ça porte sur Yitzhak Avinu qui n'a pas habité vraiment, il ne s'est pas installé, il n'a pas pris leurs habitudes, il ne s'est pas laissé influencer par les Plishtim, qui sont des Letzim, qui sont des gens qui ne prennent rien au sérieux en réalité. Ne rien prendre au sérieux, disent Chazal, ça touche à la Gaava. Ça touche à l'orgueil. Il n'y a rien. L'orgueil, ça veut dire je suis intouchable. Je suis au sommet de tout, donc un peu, je suis non critiquable, il n'y a rien qui puisse m'atteindre. Ça, c'est la gava, c'est l'orgueil, c'est-à-dire le contraire de la hanava. En fait, ce que voulaient les Plishtim, ils voulaient faire tomber Yitzhak Avinu dans la gava, dans l'orgueil, et donc faire en sorte qu'il ne puisse pas accéder réellement à la Torah chez Baal Peh. Il doit être la Torah chez Baal Peh. Ils ont voulu le faire échouer dans le Torah Shebaal Peh. C'est à ça que fait référence le Gaon, probablement. Comment est-ce qu'ils ont fait les choses? Le premier Be'er, le premier puits, ils ont dit « L'anou amaï, l'eau est à nous ». Alors, si eux disent « L'eau est à nous », ils s'attendent à ce que Yitzhak en retour dise « Non, l'eau est à moi ». À ce moment-là, il y a une dispute, mais quand on réclame la propriété, on est dans la gava, on est déjà dans l'orgueil. C'est pas Kimi She'eno. Mais Yitzhak n'est pas tombé dans ce piège-là. C'est à vous? Ok, je me retire. Deuxième puits, ça recommence. N'importe quel argument. Ça ne tient pas debout, fausse accusation, tout ce que vous voulez. Alors, ben, touché, qu'est-ce que ça veut dire? On dit du mal de moi, etc. Il voulait dire, il se retire. Donc ça tombe chaque fois. Il que Micheno, je ne suis pas là. Vous voulez vous battre avec moi, mais moi, il faut se battre, il faut être deux, et moi, je ne me bats pas. Yitzhak Avinu qui est la Gvoura, c'est pas par peur, c'est pas par faiblesse, il est la force, il est la puissance. Mais la puissance de Yitzhak Avinu, c'est une puissance, c'est la puissance dont on parle dans Pirkei Avot, et Zehu Gibor, c'est Kovesh et Yitzro, c'est-à-dire c'est celui qui se maîtrise complètement. Il fait même très attention de ne pas tomber dans ce genre de piège. Il a bien compris que c'était une histoire de piège et que pour des questions d'argent, pour des questions de kavod, on voulait le faire tomber dans le piège de la gahava, c'est-à-dire lui rendre l'étude de la Torah chez Baal Peh impossible. Alors vous voyez, le problème, c'est la Torah chez Baal Peh, elle est le produit des chachamim. Ce sont les chachamim qui doivent produire la Torah chez Baal Peh. Mais pour produire la Torah chez Baal Peh, pour pouvoir produire la Torah chez Baal Peh, une Torah qui soit vraie, pas des élucubrations, une vraie Torah, ça nécessite un ava très 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 grand. Ça veut dire qu'il faut s'effacer. Alors c'est presque la contradiction interne. Je dois produire la Torah chez Baal Peh et m'effacer. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il sait faire et ce qu'il fait, c'est justement, il arrive à faire en sorte que les choses se fassent, mais lui, il n'en tire aucune gloire. Il s'est complètement effacé, il a fait comme s'il n'existait pas. Yitzhak Avinu, il a commencé sa vie comme ça. N'est-ce pas ? Pour la mitzvah d'Abraham Avinu, il s'est totalement effacé. Mais l'effacement voulait dire ici la vie. Il a dit bon, il est lui l'objet de la mitzvah d'Abraham Avinu, la Akeda. Et son souci, c'est quoi? C'est pas sûr que je serai capable de me maîtriser au point de ne pas bouger. Et donc, il faut que tu me ligotes. Parce que sinon, la shrita, elle risque d'être. Une shrita dans laquelle on bouge, c'est pas une bonne shrita, donc tu m'aurais simplement, si je bouge et que tu fais la shrita, tu m'aurais simplement tué et tu n'auras pas fait la shrita. Donc il dit, il faut que tu me ligotes. C'est-à-dire, on fait totalement abstraction de lui, comme s'il n'existait pas. Je suis l'objet de la mitzvah d'Abraham, donc il s'efface complètement devant Abraham Avinu, devant Abraham son père. Il a 37 ans. Ici, les plishtim veulent lui faire des ennuis. Vous voulez en faire une affaire? Ce ne sera pas une affaire. Vous voulez le puits? Je me retire. Prenez le puits. Il n'y aura pas d'affaire. On ne va pas en faire une affaire. Moi, mon affaire, c'est la Torah. Je ne suis pas prêt à me laisser entraîner dans une autre affaire qui va demander de l'énergie, qui va demander du temps, qui va demander de... des dépenses sur toutes sortes de plans, je n'en suis pas d'accord. Donc, il y a cette chose absolument extraordinaire, c'est que pour produire, effectivement, c'est une chose énorme, pour produire la Torah, c'est-à-dire pour faire en sorte que les paroles de Rabbi Akiva, c'est les paroles d'un homme qui deviennent paroles de Torah. Donc, elles deviennent quasiment divines, ces paroles. C'est ça, la Torah chez Baal Peh. Quand Rabbi Akiva parle, c'est la parole d'Hachem. C'est celle de Var Hachem. Comment il peut faire ça? Ça nécessite. Et ça ne marche pas du tout s'il y a une quelconque dose de gahava là-dedans. S'il y a de la gahava, s'il y a de l'orgueil, c'est terminé. Parce que l'orgueil, c'est vouloir prendre la place d'Hachem. L'orgueil, c'est quand l'homme se prend pour Hachem. Il prend le levouche d'Hachem, il prend le vêtement d'Hachem. Justement, pour produire la parole d'Hachem, il faut que tu n'aies aucune volonté, aucune tendance à vouloir prendre la place d'Hachem. Et comme ça, tu vas produire la parole d'Hachem. C'est pas ta parole, ce sera la parole d'Hachem. Et donc, il faut cette anava. Et eux ont voulu justement l'enfermer là-dedans. Ils ont voulu le coincer en quelque sorte. Mais il ne s'est pas laissé faire. Et donc, finalement, ça n'a pas marché. Yitzhak Avinu a effectivement réussi en quelque sorte tout ce travail. Il a creusé ses puits. Je vous ai dit, il les a creusés à sa manière. Mais il a donné ce qu'il a creusé, ce sont les puits de. Les premiers puits qu'il a creusés sont les puits de son père. Ça, c'est quelque chose d'étrange. Sans Avraham Avinu, sans sa Emouna, sans son Chesed, la Emouna et le Chesed nous seraient inaccessibles. Vaikra Lahem, Yitzhak Avinu sait très bien qu'il faut donner les mêmes noms que ceux qu'a donné son père. Bien que la Midah d'Yitzhak Avinu soit complètement différente, il est à l'opposé, lui, c'est la Gvoura, c'est la rigueur. Alors comment est-ce qu'on peut creuser, faire du chesed dans d'autres termes, alors qu'on n'a pas la Midah de chesed? Ici, c'est la grande leçon. Quelque chose de fondamental a été fait. Il y a du chesed dans le monde. Le chesed a été inventé en quelque sorte dans le monde. C'est ce chesed qui a fait qu'Hachem est reconnu dans le monde. Et ça, c'est Avraham Avinu qui l'a fait. Mais Avraham Avinu, c'était sa mida, c'était sa caractéristique. Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui est malade quand il ne peut pas faire de chesed. Très certainement, il l'a travaillé cette mida, mais c'est sa mida visiblement. C'est ce que Chazal nous dit. C'est sa mida. Quasiment c'est lui, c'est sa caractéristique, le chesed. Alors comment Yitzhak Avinu, qui lui n'a pas du tout cette caractéristique, comment il fait le chesed? Comment on fait? Comment nous, qui n'avons pas la caractéristique, ceux d'entre nous qui n'ont pas la caractéristique de chesed, c'est pas ma qualité majeure. Comment je peux faire du chesed si ce n'est pas ma qualité majeure? Le chesed, c'est extrêmement exigeant. Où est-ce que je vais prendre l'énergie pour le faire? Ce n'est pas un amida. Ce n'était pas l'amida d'Yitzhak Avinu. La leçon, c'est que la raison pour laquelle nous faisons du chesed, ce n'est pas pour copier le chesed d'Abraham. Nous faisons du chesed parce que la Torah nous a ordonné. Valarta bidrachav, tu iras dans le chemin d'Hachem. Maurachum, Atarachum, etc. Nous faisons les choses parce qu'elles nous ont été ordonnées. Ça veut dire que ce qu'on nous demande de faire, que la Torah nous demande de faire, justement, dans ce reset par exemple, ce qu'elle nous demande de faire, elle ne te demande pas tes états d'âme. La Torah ne nous demande pas, ne s'occupe pas de nos états d'âme. Je te demande de faire des actions de chesed. Ah, il ne sait pas vraiment ce que tu ressens. Peut-être qu'en faisant régulièrement du chesed, tu te retrouveras changé. Le Chinour dit pourquoi certaines mitzvot, pourquoi il y a sur certains sujets, comme Yetziat Mitzrayim, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mitzvot qui visent la même chose? Parce qu'il s'agit d'être, on est transformé par les mitzvot qu'on fait. On est changé par les mitzvot qu'on fait. Mais je n'ai pas à attendre d'être changé pour faire la mitzvah. La mitzvah, je dois la faire parce qu'elle est prescrite. En d'autres termes, pour que ce soit plus concret, nous ne faisons pas la mila de nos enfants parce qu'Avraham Avinu a fait la mila. Nous faisons la mila de nos enfants parce que la Torah prescrit de faire la Mila. Pas dans les psukim de Bereshit. Et c'est la même chose pour toutes les choses. On ne fait pas du chesed parce qu'Abraham faisait du chesed. On fait du chesed parce qu'il est prescrit. Et donc on ne vous demande pas vos états d'âme. C'est pour ça que Esav est appelé un modèle dans la mitzvah de Kibouda Vahem. C'est Esav qui dit que vous aimez Even Avi, que mon père se dépêche de passer l'arme à gauche pour que je puisse aller tuer mon frère. Il est cet Esav là, le modèle dans Kibouda Vahem, dans Kibouda Vahem. Comment c'est possible? On ne s'occupe pas de ça. Ce sont des gestes. C'est un peu difficile à entendre, mais ce sont des gestes. Je te demande de faire ces choses. Je ne te demande pas que ça te... que ça vienne du plus profond de toi-même. Les mitzvot n'ont rien à voir avec les midot. Les midot, c'est une nature. Une nature que ça peut être une seconde nature. On nous demande d'acquérir cette seconde nature où on choisit des midot meilleures que celles qu'on a au départ. Vous vous souvenez de ce qu'on avait raconté sur Moshe Rabbeinu qui en fait dit de lui-même que au départ il était quelqu'un de cruel, etc. Mais que c'est un travail qu'il a fait. Il n'est pas devenu Moshe Rabbeinu comme ça tombé du ciel. C'est un énorme travail. Probablement que la Mida de Chesed d'Avraham Avinu n'est pas non plus quelque chose qu'il avait de façon telle qu'elle va s'exprimer quand Avraham Avinu est au sommet de cette perfection de Chesed, cet excès de Chesed même d'ailleurs. Ce n'est pas lui tout seul. Mais on cherche à ce que ça devienne une nature. Mais les mitzvot ne peuvent pas être des natures. Les mitzvot ne sont pas naturels. C'est marqué Bechol Yom Yiyu Be'enecha Kechadashim. Les mitzvot, elles doivent être tous les jours quelque chose de nouveau. Ça ne peut pas être une nature. Par définition, si c'est nouveau chaque jour, c'est que ce n'est pas une nature. Ça veut dire, on te demande, trouver des façons de faire. Éventuellement, si tu arrives à faire en sorte qu'une partie de la mitzvah te soit plus facile, et que tu puisses t'investir dans quelque chose d'un peu plus pointu dans cette mitzvah. Mais il faudra que ce soit chadash. Et la partie qui est importante, c'est ce qui est nouveau. Ce n'est pas ce que tu as fait hier dans la mitzvah. Ce que tu as fait hier, bien sûr, c'est sûr, n'est-ce pas, c'est sûr ce qui a été construit. Yitzhak Avinu, il n'a pas fait quelque chose de radicalement nouveau au départ. Il a commencé par creuser les mêmes puits que... Parce que c'est ça la condition. Être capable, avec sa mida, qui n'est pas la mida des autres, celui qui a commencé, avec sa mida, de se considérer comme astreint à creuser les puits. Après, il a construit d'autres, il a creusé d'autres puits. Il a eu une autre façon d'influencer le monde, de montrer dans le monde que Yesh Din, Yesh Dayan, il a montré qu'il y avait une loi dans le monde, qu'il y avait un créateur, demander des comptes, etc. Mais au départ, il fallut évidemment d'abord, comme nous le faisons, c'est-à-dire d'abord il faut emmagasiner ce que la génération précédente nous a enseigné d'études. Toute l'étude, tout le produit de la génération précédente. Après, tu peux être mechadesh. Après, tu peux et tu dois, dans toute la mesure du possible, inventer d'autres choses. Mais d'abord, faire le travail parce que c'est ça qui est prescrit. Ah, c'est pas ma tasse de thé? Je n'ai pas demandé que ce soit ta tasse de thé. Torah te demande de faire ça. Elle te demande pas de... Et non seulement ça, elle te demande en fait de le faire de simcha. Vous voyez ce que la Torah nous demande? Faire de simcha quelque chose qui ne m'est pas du tout naturel. Faire de simcha les choses qui sont naturelles, c'est facile. De faire le simcha, faire dans la joie, des choses qui ne me sont pas naturelles. C'est ça que la Torah nous dit. Bon courage.